Pourquoi vous parlez de la marche par l'esprit? Parce qu'il me semble important de vous rappeler que d'une manière précise, le Seigneur a parlé un matin, alors que nous étions dans le temps de 30 minutes chrono. Il a parlé à une sœur. Il m'a interpellé alors que je priais. Il a interpellé la sœur pendant que je priais. Et le Seigneur nous voyait vraiment rejoindre un lieu de révélation. Et lorsque j'ai parlé de la nuée, en fait, souvent, vous savez, le Seigneur nous demande non pas de suivre la majorité, de suivre ce que les gens disent en général, mais il nous demande de le suivre lui, de l'écouter lui, de lui obéir lui. Et il me paraît important de vous parler de la marche par l'esprit, parce que peut-être avez-vous une connaissance biblique de ce que c'est que marcher avec le Seigneur, de marcher par l'esprit. Mais on va voir quelques principes qui vont nous permettre peut-être de poser les bases du projet pour les mois à venir. Clairement, dans les mois qui vont venir, ça va vous être présenté prochainement, on a quelques axes sur lesquels on veut orienter l'Église, et ça me paraît important de, avant de commencer, avant de présenter ce projet, de vous parler d'abord de comment nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Tu es d'accord? Ça va. Mais avant cela, j'aimerais demander à mon épouse de venir. Je sais qu'elle va m'en vouloir. C'est depuis 2 jours, je la triture. Ça va peut-être. La semaine dernière, nous étions chez des amis où on a pris un repas et elle a raconté ce témoignage-là. Et je me suis dit, il faut qu'on le réécoute. Il y a quelques années, pour ceux, peut-être que ça fera du réchauffé pour certains d'entre vous, qui avaient déjà entendu ce songe que Marisa a fait il y a quelques années. Mais elle l'a repartagé à nouveau et ça a brûlé dans mon cœur lorsqu'elle a partagé ce songe. Ça a vraiment brûlé dans mon cœur. J'ai dit, il faut que l'Église entende ce que c'est que marcher par l'Esprit. Parce que ça résume, en fait, je pourrais lui laisser la place. Parce que tout ce qu'elle va dire, ça résume un peu comment nous devons marcher avec le Seigneur sur le plan personnel. Moi, je vais plutôt après vous parler de la manière dont nous devons fonctionner sur le plan communautaire. D'accord? Voilà, chérie, je te laisse. Enlève ton beau masque, t'es plus joli comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit, amen? Attention, c'est la mienne.
Bien, bonjour à tous, pour tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Donc voilà, donc Bruno m'a demandé de raconter ce songe que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir il y a quelques années. Une nuit où vraiment il a pu vraiment m'expliquer ce qu'était marcher par l'esprit, en tout cas pour ma propre vie. Donc j'espère que ça peut vous aider aussi et vous toucher, même si vous l'avez déjà entendu. Donc voilà, à cette époque-là, j'aime toujours à dire, mais j'étais aussi plus particulièrement touchée par le fait de dire « je suis le chemin, la vérité, la vie » dans sa parole. J'aimais ça et je pense qu'au fond de moi-même, j'avais envie de le vivre et de connaître encore davantage ce que cela voulait dire. Donc une nuit, lorsque je dormais bien, profondément, le Seigneur m'a permis de vivre avec lui cette marche avec l'Esprit dans ma vie. Alors d'abord, il m'a emmenée dans une voiture, une très grande voiture, beaucoup plus grande que celle que je possédais moi personnellement à l'époque, plutôt style américaine, avec un très grand coffre, un très grand intérieur, très grande banquette à l'arrière, très grande banquette à l'avant. Et il m'a demandé de monter dans cette voiture et de conduire. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il m'a parlé audiblement comme si c'était vous qui me parliez, mais tout était en conviction dans mon cœur. Je savais ce que je devais faire et je savais ce qu'il voulait me dire. Je suis donc montée dans cette voiture à la place du conducteur. Et lorsque je me suis mise à conduire, j'étais sur une route qui n'en finissait pas. Alors, je ne suis pas fan des États-Unis, je ne savais pas trop ce que c'était, mais le lendemain, lorsque j'ai cherché, j'en ai parlé à Bruno, c'était la route 66, certainement, parce qu'elle n'en finissait pas. Et donc, je me suis mise au volant, je me suis mise à conduire. Et là, le Seigneur m'a bien fait comprendre, m'a bien déposé dans mon cœur, voilà, tu conduis ta vie. Et je suis à tes côtés. Voilà ce que tu as fait jusqu'à présent. Voilà ce que tu fais dans ta vie. Et il m'a fait rouler, rouler, rouler. Il m'a dit, maintenant tu descends. Je vais prendre le volant et tu viens à ma place. Il a pris le volant et je me suis mise à sa place. Lorsque j'étais à côté de lui, il m'a permis et m'a demandé de regarder par la fenêtre à ma droite. J'ai donc vu défiler ma vie, la vie en général. Et j'avais parfois ce sentiment de joie, ce sentiment de tristesse, tout le temps alterné. Il a arrêté la voiture, il m'a demandé de descendre, d'ouvrir le coffre, de vider mon coffre. On est remontés ensemble en voiture, on a continué la route, il m'a fait défiler encore ma vie, la vie, avec des joies, des tristesses, des peurs. Il s'est à nouveau arrêté, il m'a redemandé d'aller vider mon coffre. Lorsque je suis remontée dans la voiture, nous avons roulé. Et là, il m'a dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vais conduire, tu vas passer à l'arrière. Et moi, je vais me remettre à ta place. Et là, j'ai compris et j'ai saisi que ce n'était pas lui qui conduisait réellement, comme la seconde fois, ce n'était plus moi qui conduisais, mais c'était l'esprit qui conduisait. Et là, pendant tout ce voyage, j'ai pu sentir une paix que je ne pourrais même pas définir, je ne pourrais même pas la retranscrire tellement c'était paisible. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, c'était vraiment tellement paisible que ce n'était même pas difficile de se faire conduire par quelque chose qu'on ne voyait pas, en quelque sorte. Alors, à l'heure actuelle, qui monterait dans une voiture à l'arrière en voyant que la voiture roule, mais ne voyant pas la personne qui la conduit? Et là, il n'y avait aucune peur, aucune crainte. C'était bon, vraiment quelque chose de tellement bon à vivre. Et là, nous avons roulé. Et le Seigneur m'a dit, maintenant tu descends, tu ouvres ton coffre et tu le remplis. Alors, je n'ai pas vu quelque chose de matériel, mais j'ai bien saisi que c'était que Dieu voulait remplir mon coffre de son esprit. Et il m'a fait redescendre le coffre, il m'a fait remonter et rouler, ça n'en finissait jamais. Et j'étais bien, je me sentais tellement libre et sans aucune peur de me laisser guider et de me laisser conduire. Et là, ça s'est arrêté et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tout ça? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et là, le Seigneur m'a dit, eh bien, c'est cela, le chemin, la vérité, la vie. Voilà.
Voilà, c'est chérie. Je retiens plusieurs choses de ce que Maryse a vécu dans ce songe. Un, c'est que la volonté, tu ne peux marcher par l'esprit tant que tu ne vides pas ton coffre. Et l'œuvre de l'esprit, c'est de vider des choses que nous avons vues dans le passé. Il y a des conceptions, il y a des blessures, il y a des choses qu'on doit décharger de notre coffre. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que regardez, quand on se met à marcher par l'esprit, c'est là où on peut commencer à découvrir les belles choses sur le bord de la route. On arrête de voir la vie comme quelque chose de négatif, avec nos souffrances, avec nos peines. Certes, on voit des fois des joies, mais on voit aussi des peines. Tandis que quand on se laisse conduire par l'esprit, on commence à voir les choses d'une manière beaucoup plus positive parce qu'elles sont divines. C'est pas de la méthode Coué, hein. C'est parce que l'esprit nous conduit à découvrir des choses encore sur le chemin de notre vie. Voilà. Alors le principe de la nuée, on va essayer de comprendre ce que c'est que de marcher par l'esprit, maintenant d'une manière communautaire. J'espère que vous avez compris à peu près ce que le Seigneur voulait dire dans le songe de Maryse, nous concernant. Donc je vous invite vraiment à le laisser conduire, peut-être. Et puis si vous dites vous arrêter dans cette année 2020, T1, on va la mettre de derrière, celle-là, parce que... Et si vous invite à décharger votre coffre, c'est peut-être le moment de le faire. On consomme plus hein, quand notre coffre est plein. Non, mais c'est vrai. Et on va beaucoup moins loin puisqu'on consomme plus. Ah, il faut que j'allume, pardon. Je n'arrive pas à l'allumer. Je vais mettre mes lunettes. Elles sont là. J'ai les noms de ceux qui rigolent. Voilà. On va prendre un texte en Nombre chapitre 9, versets 15 à 23. Le jour où le tabernacle fut dressé, alors vous savez que Moïse a reçu la révélation du tabernacle sur la montagne. Il redescend avec tout dans sa petite tête, si je puis dire, et il va transmettre ce qu'il a vu à Betsalel, Ololiab et toute son équipe. Il dit, moi j'ai vu ça, il faut faire ça comme ça. Et que va faire Betsalel? Il va faire exactement ce que Moïse a reçu. C'est-à-dire que ce que Moïse a vu sur la montagne va être reproduit d'une manière exacte en bas de la montagne. Ce que Moïse a vu spirituellement, prophétiquement, dans l'implication de, du peuple, les choses vont se faire exactement pareil. Moi, c'est ce que j'appelle être un peuple prophétique. Voilà. Donc, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. Comment Dieu ne pouvait-il pas approuver ce que les hommes avaient fait sur la terre, puisqu'il représentait ce tabernacle, ce que Dieu avait montré? Si nous voulons que la gloire descende dans ce lieu, comme nous l'avons chanté ce matin, il nous faudra faire ce que Dieu demande dans sa parole et uniquement ce qu'il nous demande dans sa parole. Et si nous mettons en place ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole, eh bien la gloire descendra. Et si nous ne voyons pas encore la gloire, c'est parce qu'on a encore du chemin à accomplir. Et c'est le but de marcher avec l'Esprit de Dieu. Ce peuple est sorti d'Égypte esclave. Pour pouvoir posséder le pays promis, il aura fallu faire tout un chemin de révélation, de sanctification. Et moi, je ne considère pas aujourd'hui être arrivé à Canaan et avoir encore reçu toutes les promesses que je vois dans la parole de Dieu. Mais en tout cas, je me considère plus comme étant en chemin dans des périodes de ma vie où j'apprends de plus en plus de lui et je lui fais de plus en plus confiance pour ma propre vie. Et donc, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée vient, elle couvre le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Waouh ! Vous imaginez les voisins ici ? Monsieur et Madame Tafouri qui voient le feu ici ? Vous imaginez vos voisins qui voient sur vous un feu? Vous imaginez un peu l'impact de la vie des gens dès qu'on va commencer à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et quand, là j'ai coupé un peu le texte, mais quand la nuée s'est levée du dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et là on va voir un peu, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que vous imaginez le feu, la nuée était au-dessus du tabernacle, et puis que se passait-il? D'un seul coup, Dieu disait, je l'ai fait bouger. Il bouge, les gars. Debout, les gars, réveillez-vous. Il va falloir mettre un coup pour ceux qui ont fait des colonies de vacances. Dieu les réveillait. Il disait, levez-vous. Et les enfants d'Israël partaient quand Dieu leur disait de partir. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Vous savez ce que ce peuple a appris à faire pendant toutes ces années dans le désert? Il a appris à marcher avec Dieu. Il a appris à marcher avec l'Esprit de Dieu. Il a appris à se soumettre à la volonté de Dieu. L'un des plus grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas uniquement, je pèse mes mots, contre les puissances des ténèbres, mais c'est avant tout contre notre propre volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et l'Église doit rentrer dans cette compréhension que dans cette année dans laquelle nous allons entrer, nous allons faire la guerre à notre propre volonté. Nous allons mettre à mort notre propre volonté. Parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. On va voir. La nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'est levée, elle partait. C'est-à-dire que le temps n'était plus le temps de l'homme. Le temps du mouvement n'était pas défini par l'homme. Le temps du mouvement n'était pas défini par les circonstances. Le temps de l'homme était défini par le temps divin. Et ce peuple-là a appris à connaître les temps de Dieu et à obéir au temps de Dieu. Quelqu'un me disait hier, il y a des gens qui prient pour que ça bouge dans leur vie. Il disait, mais le temps est le temps de Dieu. J'ai demandé, Dieu agira, mais en son temps. Et je sais que c'est l'une des choses, la deuxième chose avec laquelle nous devons faire la guerre, c'est accepter le temps de Dieu. Accepter ce qu'il a décidé pour nous. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient, Regardez, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. On va essayer de comprendre un peu ce que c'est que principe de la nuée, et puis on va essayer d'en déduire comment marcher par l'esprit pour nous en tant que communauté. Ok? Tout ce que je vais vous dire là ce matin, c'est concernant Betsalel, hein, d'accord? Vous savez comment marcher par l'esprit. Enfin, j'espère. Là, on va voir les différents paysages du désert du Sinaï. Pourquoi? Alors, c'est dimanche dernier. Il me semble que le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, regarde, Bruno, le Sinaï. Donc, je suis allé voir Google, images. Hein, je fais de la pub pour Google. Mais je suis allé voir. Regardez, le premier ici en haut à gauche, le Sinaï, c'était ça. C'était une montagne sèche. C'était de la roche. C'était mort d'aspect. À droite, vous aviez de temps en temps quelques petits oasis, quelques petits points d'eau. Et puis en dessous, parfois vous avez des grandes étendues de sable. Et je peux vous dire que les 40 années qu'ils ont passées dans le désert ont plus souvent été des moments où l'environnement était hostile. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ne nous étonnons pas d'avoir un environnement hostile. Jésus n'a jamais dit « vous n'aurez pas de tribulation ». Au contraire, il a dit « quand vous aurez des tribulations ». J'ai relu ces derniers temps, j'étais très interpellé parce que j'avais besoin de me sentir réconforté sur certains points. J'ai relu la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Lisez-la, surtout si vous portez des responsabilités. Et vous verrez qu'on arrête de se plaindre quand on lit ça parce qu'on se dit « mais Paul a été battu, il a été rejeté, il a été déclaré mort, on a refusé son autorité. » Et Dieu n'a jamais dit « mais vas-y garçon, vas-y ma fille, tout ira comme sur des roulettes. » Au contraire, tant que vous serez sur cette terre, vous aurez des tribulations. Et la fin de tribulation arrivera lorsque nous serons près du Seigneur. Maintenant, il est tout de savoir comment moi je fais dans mes tribulations, dans mes environnements hostiles. Comment je vais agir? Comment je vais faire pour agir? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant réellement selon la volonté de Dieu? Et là, le Seigneur les conduisait là où il voulait, comme il le voulait et quand il le voulait. Et vous savez, l'une des choses les plus difficiles à faire, je pense, pour une communauté, toujours la même. C'est peut-être le Seigneur qui nous dit de bouger. Écoutez, peut-être là. Le Seigneur les conduisait là où il voulait, comme il voulait et quand il voulait. Et vous savez, il y a vraiment un combat, je pense, et le rôle des responsables d'une église, le rôle de responsable de cette communauté, c'est de faire en sorte que le mouvement soit communautaire. Si je reviens en arrière et que je reviens sur la première page, regardez. Le camp était organisé, c'est-à-dire que dès que la nuée s'est levée, chacun déjà rangeait sa tente. Chacun pliait ses propres affaires. Chaque famille remplissait ses malles ou chargeait ses mules, enfin, etc., ses chameaux, peu importe, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Mais en tout cas, ils se mettaient déjà en ordre dans leur propre famille. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mouvement d'une communauté commence par ton mouvement personnel. Et regardez ce qu'il fait, le peuple faisait. Il était tellement bien organisé que là, c'était pas le brouhaha, c'est que chacun était dans son coin, chacun se rangeait, et après il prenait le chemin. Aimer, quel que soit l'environnement, le Seigneur pourvoyait à leurs besoins en toutes circonstances. N'est-il pas dit qu'ils avaient toujours la manne? N'est-il pas dit que même dans les moments les plus difficiles où l'eau qu'ils burent fut amère, l'eau devient douce? N'est-il pas dit qu'à un moment donné, de l'eau sort du rocher parce qu'ils avaient soif? À chaque circonstance, Dieu pourvoyait. Et vous savez, si vous voulez marcher par l'esprit, si nous voulons marcher par l'esprit, en tant que communauté, nous devons être conscients que Dieu pourvoira à toutes nos circonstances négatives ou positives. Marcher par l'esprit, avant tout, est une question de foi et de confiance en Dieu. Et toute personne qui met des doutes sur Dieu et sa capacité à pourvoir, on la chante. Et il est dans les, vous savez, dans la vidéo du commencement du culte, on a vu Dieu qui pourvoit. Il pourvoit. Et il pourvoit pas uniquement quand tu sors ta carte bleue et que tu vas faire tes courses au supermarché. Hein. Il pourvoit en toutes circonstances. Et dans tout ce que Dieu fait. Et ce qu'il a vu de faire. Moi, je chantais tout à l'heure, quand je regarde tes œuvres, et enfin ce chant qui dit « Je vois tes œuvres » et c'est quoi déjà ? Mon cœur crie de joie quand je vois tes œuvres. Merci, Jo. Mon cœur crie de joie quand je vois tes œuvres. Moi, je peux vous dire, Jacqueline, tu te souviens, 12 ans passés ensemble, 12 ans, qu'est-ce que tu as vu, Jacqueline? C'est pas moi qui vais le dire, mais qu'est-ce que tu as vu? N'as-tu pas vu la fidélité de Dieu? Mais je sais qu'avant ces 12 ans, il y avait encore, à chaque période de Betsalel, depuis que cette église est née, Dieu a toujours pourvu aux besoins de Betsalel. Et il continuera à le faire. C'est-à-dire que dans les projets de Dieu, dans la marche de l'esprit, là où Dieu veut nous amener, Dieu envoie toujours les ressources nécessaires pour y arriver. Si nous avons soif, il nous donnera à boire. Si nous avons faim, il nous donnera la manne, il nous donnera à manger. Si nous avons des ennemis qui viennent nous empêcher ou freiner dans notre marche, eh bien, il les fera fuir parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dès lors que nous marchons par l'esprit, nous avons cette assurance qu'il pourvoit. Ah, je continue. Alors, la migration, le voyage dans l'Exode. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand Dieu fait bouger quelqu'un, quand il nous fait bouger, quand il nous met en mouvement, c'est pas juste, tiens, il lui dit pas, ben, on va faire un petit tour, d'accord. Moi, je vais me balader, peut-être cet après-midi, s'il fait beau, je vais me balader, je vais prendre mon chien. Mais c'est, je dis, ben, tiens, je vais faire bouger mon chien. Et on va faire une petite balade. Le but, ça va être quoi? Son petit pipi. Et la grande commission, si nécessaire. Mais ça n'a pas un but précis, vous comprenez ce que je veux dire? Tandis que quand Dieu nous dit « lève-toi et va à tel endroit », c'est toujours pour nous amener dans une dimension de révélation, de changement. Et parfois, même si ça se fait dans la douleur, Dieu ne nous change pas simplement physiquement d'endroit. Mais il veut nous amener vers un mouvement qui est un mouvement de libération. Vous savez, beaucoup d'entre nous encore sont prisonniers de leurs pensées. Et ça les empêche de bouger. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu nous emmène, même dans une circonstance, une situation difficile, même un temps de crise, c'est toujours pour nous amener à la révélation de la libération. Et souvent aussi, c'est pour nous transiter vers plus de conquête, plus d'abondance. Plus de maturité en Christ. Alors je sais que, je sais pas vous comment vous avez vécu vos épreuves, mais moi j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup ri, mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup souffert. Mais à chaque fois, j'ai dit merci Seigneur pour les moments par lesquels tu m'as fait passer. Parce que si j'étais pas passé par ces moments-là, tu m'as déplacé parfois, tu m'as poussé par ton esprit à vivre des choses terribles. Mais je le remercie parce que c'est dans les temps de crise que Dieu peut agir et qu'il agit. Accepter d'être conduit par l'esprit, c'est accepter plus de révélations. Êtes-vous prêt à recevoir plus de révélations dans cette année qui arrive? Êtes-vous prêt à prendre du temps pour la révélation? Êtes-vous prêt à prier davantage pour plus de révélations? Êtes-vous prêt à méditer, étudier la Bible pour plus de révélations? C'est aussi d'entrer dans notre identité. Il va falloir se dépouiller de notre ancienne identité. Je l'ai déjà dit, mais Ils fabriquaient des briques, les Israélites, en Égypte. Et leur mentalité dans le jardin, pas dans le jardin, dans le désert, c'était pas vraiment un jardin. Leur mentalité dans le désert était encore une mentalité d'esclave. Et Dieu a permis toute une série de circonstances, de situations, pour les amener à sortir de leur identité d'esclave. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être délivrés de notre mentalité d'esclave. N'oubliez pas, nous avons vécu une fin d'année où régulièrement nous avons enseigné sur les valeurs du royaume de Dieu, le lâcher prise, la puissance de ce que disent nos paroles. Il y a eu toute une série d'enseignements, et je parle d'enseignements parce que pour moi c'était vraiment des enseignements dans lesquels le Seigneur, le Saint-Esprit voulait nous emmener. Et je crois personnellement que nous devons entrer dans cette quête de l'identité en Christ, dans la structure établie par Jésus et fonctionner sur ses bases. Le mouvement était déterminé par Dieu et non par la préférence du peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, si Dieu me dit de bouger, je bouge. S'il me dit « assieds-toi », je m'assieds. Oh, c'est facile de le dire. C'est facile de dire « ah, moi, je suis prêt à le faire ». Mais est-ce qu'on est prêt à être bousculé dans nos habitudes? Est-ce qu'on est prêt à être bousculé dans nos conceptions? Est-ce qu'on est prêt à être bousculé dans nos convictions? Est-ce qu'on est prêt à bouger avec Dieu? Les temps d'arrêt dans un endroit étaient déterminés par l'Éternel. Les circonstances étaient déterminées par lui. Mais à chaque étape, il était donné au peuple une nouvelle révélation. Vous savez, mes frères, mes sœurs, regardez la progression avec laquelle Maryse a vécu ce songe. Au départ, elle conduit sa propre voiture. Au départ, elle a sa propre identité, si je puis dire. Elle a son coffre plein d'elle, plein de ses circonstances. Et un petit peu à la fois, elle découvre un Seigneur qui dit « Laisse-moi conduire, s'il te plaît. » Et il l'arrête à des endroits précis pour se décharger. Et puis, à un moment donné, elle laisse le Saint-Esprit conduire la voiture. C'est déstabilisant. Je sais qu'on aura de plus en plus des voitures qui vont se conduire toutes seules. Mais à l'époque où tu as fait ton rêve, chérie, je suis sûr que tu t'imaginais pas cela. Parce que elle a appris à entrer de plus en plus dans la conduite du Saint-Esprit dans sa vie. Et ce principe montre la manière dont Jésus bâtit son Église. On ne bâtit pas le peuple à la va-vite. Est-ce que vous comprenez ça, que chaque étape dans notre vie est importante? Ce qui a construit mon épouse, et je peux vous le dire, moi je la connais bien, on se connaît depuis l'âge de 2 ans, plus. On est sortis ensemble à 14 ans, au collège. Moi je connais ma femme comme personne ne la connaît, et elle ne me connaît, personne ne me connaît comme ma femme me connaît. Je peux vous dire que cette femme-là a véritablement, je sais que ça l'embête que je dis ça, mais a véritablement été transformée par le Saint-Esprit. C'était une femme qui avait peur des choses. Vous lui parliez de choses de l'esprit à l'époque, elle se fuyait ces choses. Elle avait peur de ces choses. Aujourd'hui, c'est une femme qui, à mon sens, est profondément prophétique. Et je respecte beaucoup mon épouse. Je peux vous le dire. Parce que j'ai vu sa capacité à se décharger pour laisser remplir le Seigneur de ses dons et de ses capacités. Et je crois que ce principe montre à quel point Dieu veut bâtir nos vies, il veut bâtir l'Église. Chaque étape est importante dans ma vie. Et c'est pas, vous savez, c'est pas cette prédication qui va bâtir les choses. C'est pas ce que je dis qui bâtit les choses. Ce qui bâtit, c'est ce que tu prends et ce que tu mets en application dans ta vie. En tant que femme, en tant qu'homme. Et je crois que chaque étape, elle doit être comprise. Dans quelle étape Dieu veut t'amener aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut pour toi aujourd'hui? Parce que la manière dont tu vas changer va impacter le corps, va impacter l'Église et sa capacité d'entrer. Autrement dit, je suis pas très courageux dans ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de vous envoyer toute la responsabilité de la conduite de l'Église. Et je me dis, Seigneur, je me lave les mains s'ils obéissent pas. Je plaisante, mais c'est un peu ça. Vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes responsable de ce que sera cette église. Vous êtes responsable de ce que deviendra cette ville. Vous êtes responsable de ce que deviendra ce pays. Je devais pas le dire ça, mais je sais pas pourquoi je l'ai dit. On change de thème lorsque Dieu dit « on change maintenant ». Et on y va. Et dans ce principe des vins, les choses se font lorsque la fréquence de Dieu, selon la fréquence de Dieu, et non plus selon la fréquence de l'homme. C'est Dieu qui décide. Et si tu veux être conduit par l'Esprit, si tu veux marcher par l'Esprit, c'est de vouloir la préférence de Dieu avant la tienne. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut beaucoup de souplesse, mes frères et mes sœurs, pour marcher par l'Esprit. Beaucoup de souplesse. Et beaucoup d'humilité. Beaucoup de souplesse et d'humilité. Est-ce que je suis prêt à me laisser bouger? Julien, tu es d'accord avec moi? Si tu veux remettre en place mes vertèbres, à chaque fois tu me dis quoi? Détends-toi. Tu fais des gestes pour détendre un petit peu le corps avant de faire souffrir. Alors, ça craque. Sadique. Mais je sais qu'une fois, il a essayé, il a pas réussi parce que je me contractais tellement. Vous savez, pour bouger avec Dieu, pour redresser ce que nous sommes, il nous faut vraiment permettre à l'Esprit Saint de nous détendre, de nous rendre plus souples. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Seigneur, rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Voilà, vouloir être conduit, c'est laisser le Seigneur faire. Le deuxième principe, c'est un principe de changement. Le Seigneur les a conduits sur deux niveaux de changement. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ils sont sortis d'Égypte, mais c'était panique à bord, si je puis dire. C'était à la sauvette. Hein. Ils sont courus, c'est tout juste. La preuve, c'est que le pain n'a pas eu le temps de lever. Hein, c'est la fête, hein, d'accord. Et il a fallu qu'ils partent comme ça et qu'ils courent. C'était la fuite en amont, quoi. Hein, ils savaient que Pharaon était derrière, Dieu les a préservés, merci Seigneur. Mais vous savez, je crois qu'il y a quelque chose, si on revient à l'image initiale, Dieu a organisé son peuple. Et vous savez, beaucoup de gens qui disent, à qui ça fait peur l'ordre et l'organisation. Mais Dieu se plaît, et je l'ai déjà dit, je le redis, Dieu se plaît dans l'organisation et dans les choses qui sont bien structurées. Ça veut dire que il y a une forme de, j'appellerai pas ça d'une déviance, mais une forme de mentalité qui est arrivée dans l'Église à cause de la manifestation des dons spirituels. Alors je ne rejette pas les dons, vous savez, j'aime beaucoup. Hein, je suis un peu comme Moïse, un peu. Hein, j'arrive pas encore à ça, je suis. Mais je souhaite vraiment que tout soit prophète dans notre pays. Mais regardez. Je crois vraiment que... Je ne sais plus pourquoi je dis ça. J'ai perdu le fil. Ah, c'est pas grave. En tout cas, il y a de l'organisation. Et le peuple a été structuré, organisé. Si vous regardez l'image du départ, le peuple était par tribu organisé. La deuxième chose, c'est la révélation. En sortant d'Égypte, le mouvement était désordonné. Maintenant, le Saint-Esprit organise. Le camp est organisé et Moïse désigne des chefs pour le soulager. Autrement dit, mes frères et mes sœurs, cette période de la nuée a permis une organisation et une délégation de pouvoir et d'autorité. Et c'est ce qui va se faire dans les mois qui viennent ici. C'est-à-dire qu'il y aura une organisation qui va être mise en place et une délégation d'autorité. Il va falloir que l'organisation, que la structure de Betsalel corresponde à ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est Dieu qui le veut. Je pèse mes mots quand je dis ça. Dieu veut une église qui soit structurée, organisée, selon ce que lui aura décidé. Et accepter d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est accepter l'organisation, la structure divine, et entrer dans une phase de recherche du Dieu trois fois saint. Je crois aussi que la révélation ne peut venir que par la prophétie. Vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un me disait avant le culte, hein, c'est dans ces temps 30 chronos, je vous rappelle, tous les matins 6 heures, tous les soirs 20 heures. Si vous, mettez-vous à l'écoute ensemble du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous imaginer, moi, comme le Seigneur me parle à travers les frères et les sœurs qui prient. Et souvent, j'ai des choses sur le cœur. Je dis, mais tiens, il est allé lire dans mes pensées, lui, ou elle. Parce qu'il y a vraiment ce temps où on sent l'Esprit de Dieu nous amener et conduire la révélation. Pendant des années, j'ai souffert. Je me disais, mais on ne m'écoute pas, on ne veut pas aller dans telle direction, etc. Mais je me rends compte en réalité que moi, j'ai beau faire ce que je veux, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Et lorsque des frères et des sœurs commencent à prier ensemble, Dieu peut parler et on a pu à se battre, à dire, mais écoutez-moi dans une pipe, j'ai envie de dire ça. Il me suffit derrière d'arriver et dire, ben, moi j'ai reçu ça de la part du Seigneur. Et les gens disent, ah ouais, forcément, ils l'ont déjà reçu dans la prière, ensemble, d'une manière communautaire. Je bénis, vraiment, je remercie le Seigneur pour ces temps de prière vécu d'une manière communautaire. Moi, j'ai fait de la pub. Hein. Je souhaite quand même que une petite rémunération, n'est-ce pas, pour. J'ai fini avec ça. Ouais, en Égypte, il n'y a pas de révélation. Maintenant, je pense que Dieu veut nous amener dans une plus grande révélation. Et accepter d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est accepter les temps de structure, d'organisation, mais c'est accepter des temps de révélation. Et le mouvement communautaire est dirigé par le leader. Oh là là, je vais toucher un sujet qui fâche. Mais tant pis. Il campait sur l'ordre de l'Éternel, il partait sur l'ordre de l'Éternel, et ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Moi, j'aime bien les dernières phrases. Quand on est responsable, on aime bien les dernières phrases. Pourquoi je vous dis ça? Parce que forcément, on a tous le Saint-Esprit. Et forcément, nous sommes tous conduits par l'Esprit Saint. Et forcément, tous nous recevons une révélation. Mais il est écrit aussi en Éphésiens, lorsque Dieu dit « selon la mesure de Christ », c'est le mot « métron » en grec, il y a des niveaux de révélation. Il y a des niveaux d'autorité qui sont donnés. Et forcément, le responsable, alors pour ceux qui n'aiment pas leader, ils pourront dire responsable, guide, conduite, enfin peu importe, on s'en fout. Le principal, c'est qu'ils conduisent, et qu'ils conduisent bien surtout. C'est que derrière, on met en évidence que dans une organisation, il y aura toujours des responsables. Et qu'on ne peut pas faire sans les responsables. On ne peut pas faire, mes frères et mes sœurs. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, on ne comprend pas la marche par l'Esprit. Je pèse mes mots. Parce que, regardez, c'est dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, où il parle bien, ce texte parle bien de la marche par l'Esprit, et il conclut par ça, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de Moïse. Comment Dieu faisait? Eh bien, Dieu décide le mouvement. Forcément, le peuple, que faisait-il? Il voyait la nuée s'élever. Le peuple voyait. Eux aussi le voyaient. Forcément, ils prenaient du temps ensemble dans la prière, tous les matins à 6h et le soir à 20h. Ils prenaient du temps. Donc, ils voyaient la nuée. Mais que faisait-il? Regardez, j'imagine Moïse là, ici, et puis tout le monde voit la nuée monter. Et que faisait le peuple? La nuée monte. Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Moïse, il dit, allons-y, mes frères, mes sœurs. Waouh, c'est fort. C'est puissant ce que Dieu est en train de nous montrer là. Ça veut dire que là, Dieu faisait approuver son ordre par un homme. Mais ai-je suffisamment confiance aux hommes? Moïse était le conduit par lequel Dieu passait. On comprend pourquoi le conducteur, le responsable, doit être celui dont la vie est purifiée. Vous imaginez si Moïse avait fait des bêtises? Vous imaginez lorsque quelqu'un conduit, je pense à vous qui êtes père et responsable de votre famille, Je pense à vous qui êtes maman. Je pense à vous qui êtes peut-être responsable sur votre lieu de travail ou qui êtes porté des responsabilités dans cette communauté. Vous imaginez bien que pour diriger correctement, vous devez avoir une vie purifiée. Et on comprend aussi pourquoi il faut avoir une écoute prophétique qui soit exercée. Mon critère numéro un à moi, quand je fais confiance à quelqu'un pour me conduire, est-il à l'écoute de Dieu ? Je ne dis pas, il peut se tromper. Ah oui, bien sûr, tout le monde peut se tromper. Mais est-il à l'écoute de Dieu ? Parce que quand une personne est à l'écoute de Dieu, même si cette personne se trompe, elle finira toujours par recadrer le tir. Père, écoutez Dieu. Maman, mère, écoutez Dieu. Vous avez une responsabilité quelconque, écoutez Dieu. Parce que ça ne concerne pas simplement votre propre vie, ça concerne la vie de vos enfants, ça concerne la vie de personnes qui sont sous votre autorité. Écoutez prophétiquement le Seigneur. Et Betsalel, dans tout ça, on va conclure. Il y a une nouvelle étape dans notre destinée communautaire. J'en suis convaincu. Je vous rappelle que nous allons entrer dans une phase d'accélération dans les temps qui viennent. Les mois qui arrivent doivent être des temps de changement dans les cœurs. Vraiment, je souhaite. Et quand je prie, dites-vous bien, des temps de changement dans mon cœur à moi. Je ne commence pas à regarder vos défauts parce que j'ai pas fini de prier sinon. Mais j'en ai suffisamment avec le mien, je n'arrête pas de prier pour moi et pour demander que Dieu change mon cœur. C'est pour ça que j'ai demandé cette audite, parce que je veux, et merci à toutes celles, tous ceux qui ont répondu, parce que c'est venu appuyer des choses que j'ai reçues par le Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Il va falloir que nous bougions. Et quand je dis bouger, pas simplement se lever, mais que nous mettions en mouvement. Est-ce que vous vous souvenez de cette parole prophétique du joueur de baseball? Non? Vous vous souvenez de ça? Je vous la fais. Vous la connaissez pas? Ah, je vous la fais. Pour les sportifs, ça parlera qu'aux hommes, sans doute. Mais pour ceux qui ont Bein Sport et qui peuvent regarder les matchs de football américain, j'ai appris à apprécier ce sport, d'ailleurs, depuis quelques temps. Et en fait, vous savez, quand il y a un des joueurs qui lance le ballon, comme ça, le but c'est que le suivant attrape le ballon, qu'il aille franchir la ligne. Et en fait, quand il se met, dès que le gars lance la balle, comme ça, le ballon, il y a celui qui doit attraper la balle, qui se met à courir, qui se met en mouvement. Mais regardez la manière dont il se met en mouvement. Il se met en mouvement et il a l'œil fixé sur la trajectoire du ballon. Et il va adapter sa course à la vitesse et à la hauteur du ballon. Que fait-il quand il l'attrape? Donc il se met en... Il l'attrape. Et puis il dit, oh, c'est chouette de l'attraper. Ça, c'est les gens qui reçoivent une parole prophétique, qui recherchent la parole prophétique. Il dit, ah, chouette, j'ai reçu le ballon. Mais t'as marqué aucun point. Par contre, quand tu chopes le ballon, et puis que tu commences à courir avec la parole que Dieu t'a donnée, là tu franchis la ligne et là tu remportes la victoire. Et là tu marques des points. C'est cela. C'est vers cela où nous voulons aller. Où je veux aller. Où je veux emmener en tout cas un maximum de personnes dans cette année. C'est là où je veux faire entrer qu'on va se mettre à bouger et courir. Ah, je deviens vieux. J'ai de la misère à me mettre dans le sprint. Non, on va bouger tous ensemble, petits, grands, jeunes, vieux, tous ensemble, ouais, ouais. Ça va être un temps d'écoute prophétique. Vraiment, on va écouter le Seigneur. On va entendre sa voix. Ce qui est important, c'est d'entendre sa voix. On va recevoir le ballon et on va se mettre à courir. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce qu'on sera suffisamment souple, mobile, humble pour accepter le mouvement de l'esprit? Est-ce qu'on le sera suffisamment? That is the question. On va prier. Nous allons prier et demander au Seigneur de son aide. Et demander son aide parce que nous voulons nous lever. Nous voulons prendre sa parole. Nous voulons nous mettre à courir pour choper sa parole, pour la prendre, la serrer contre notre cœur. Et nous voulons courir et atteindre le but de Dieu. Nous allons poursuivre les buts de Dieu parce que le but du Seigneur, c'est pas simplement d'envoyer des paroles. Le but du Seigneur, c'est pas simplement d'envoyer des bonnes paroles le dimanche matin. Le but de Dieu, c'est de nous les donner, qu'elles deviennent les nôtres. Et il y a des adversaires qui voudront bien nous voler notre ballon. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un gros coup de boule. Ils se laissent pas faire. Ils repoussent. Ils résistent. Parce qu'ils disent, je veux franchir la ligne. Je veux y aller, Seigneur. Je veux m'engager vers ça. Je veux aller vers ça. Je veux suivre tes buts, Seigneur. Et je veux entrer dans ta volonté. Et je te prie pour chacun, chacune ce matin, que ceux qui n'arrivent pas encore à courir, courent. Que ceux qui n'arrivent pas encore à se lever, se lèvent. Que ceux qui n'arrivent pas encore à marcher, marchent. Que ceux qui n'arrivent pas encore à avancer, avancent. Père, je te prie pour que tu restaures ceux qui ont été mis sur la touche. Père, je te prie pour que tu restaures, pour que tous entrent. Le peuple entièrement se lever à la nuée. Tous se lever. Et c'est un peuple uni devant toi qui se lève et qui veut avancer avec toi, Seigneur, et atteindre les buts que tu as fixés. Pas uniquement pour nous, pas uniquement pour Betsalel, mais pour ce pays. Merci, Père. Amen.